Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, à 11h30 sur TVA, on invite les gens à regarder cette fois le guide de l'auto après l'avoir écouté. Il sera question du Genesis GV60 qui sera mis à l'essai sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.
Et pour ceux qui veulent revoir l'émission par la suite, vous allez retrouver sur TVA+, évidemment sur la plateforme Medico, sur ma page YouTube Auto Joubert. On le met également en segment sur le site du guide de l'auto. Alors, pas de raison de ne pas le voir. Maintenant, toi, tu es allé t'amuser justement à Mécaglisse cette semaine avec la Porsche 911. Pas pire.
Oui, effectivement, il y a de pires semaines, tout juste avant les grands froids en plus. Donc, on le sait, depuis 2011, Porsche organise ce camp hivernal que j'appelle, cette espèce de classe neige pour hommes d'affaires fortunés. essentiellement, on propose un cours intensif de conduite hivernale sur ce circuit-là. On adapte des portions du circuit pour pratiquer certaines manœuvres, et on met à la disposition des gens des 911 pour réaliser le tout.
Il y a aussi des Porsche Taycan, je crois.
Oui, il y avait quelques Taycan. C'est spécial à voir aller parce que ça réagit vraiment pas de la même manière.
Drôlement plus lourd, là.
Ouais. Oui, et j'ai fait, par exemple, le fameux slalom des comptes. Tu sais, on réinvente pas la roue. Tu le fais d'abord avec une Carrera 2, donc une version propulsée, et avec le contrôle de traction, si on veut, activé, pas activé, et en mode sport pour voir jusqu'à quel point on est permissif. Et quand on le retire complètement, c'est drôlement plaisant. Et quand on fait l'exercice ensuite avec une Taycan, une version turbo, là, avec les grands guillemets, et c'est drôle. La voiture ne réagit absolument pas de la même manière. Le poids n'est vraiment pas réparti de la même manière. Non. La sonorité même artificielle est complètement différente. Alors, c'est amusant de passer d'un véhicule à l'autre.
On nous a aussi... Je ne sais pas si ça était le cas pour toi, mais...
Parce que moi, tu as fait l'exercice il y a quelques années.
Oui, mais pas avec une Taycan, sauf que j'ai fait du circuit avec une Taycan et je me suis donné mal au cœur dans cette voiture-là tellement les transferts de masse sont gigantesques. La voiture est capable de tout faire.
Absolument.
Mais c'est les transferts de poids qui sont immenses.
Ouais.
Et pour ceux qui ont le cœur sensible, là, qui ont le mal des transports, là, c'est effrayant. Moi, en tant que conducteur, je me donnais mal au cœur moi-même. Ça te donnait une idée à quel point c'est assez particulier. Ce qui n'arrive pas dans une 911 en passant. Là.
Non, c'est ça. C'est assez bien équilibré de ce côté-là. Et c'est intéressant parce qu'on a pu pratiquer des techniques de dérapage, tu sais, bon, y a la fameuse technique là, du frein à main qui n'est pas très, très évoluée, si on veut. Mais,
oui, qui existe de moins en moins parce qu'avec un frein électrique, ça va mal.
C'est un peu moins évident, je te l'accorde, mais avec une voiture propulsée, bon, de braquer, de donner, d'appuyer tranquillement sur l'accélérateur, ben forcément l'arrière-train va finir par décrocher. Mais on nous a montré, par exemple, en faisant un transfert de poids de l'arrière vers l'avant, ben il y a moyen de faire décrocher également avec... un transfert latéral aussi. Bref, énormément de plaisir avec la 911. On a pu conduire aussi une version à quatre roues motrices pour mettre en comparaison les deux. Bon, c'est certain que mon cœur de puriste préfère une version à deux roues motrices.
Qui plus est, à boîte manuelle, mais ça, il n'y en avait pas.
Et ça, il n'y en avait pas. bon, cela dit, une boîte PDK, là, la fameuse boîte automatique de Porsche, je dis souvent la blague, elle change de vitesse avant même que tu aies le temps de penser à changer la vitesse. Ouais. Là, c'est très efficace. Mais c'est l'exemple, une fois de plus, qu'on peut utiliser une Porsche 911 l'hiver et ressentir du plaisir et ne pas... Et même une version à deux roues motrices, elle ne sera pas, à mon avis, handicapée si elle est bien chaussée, ce qui était le cas. Des Nokian cloutés, c'est assez désirable en hiver. De ton côté, Antoine, tu as conduit le Mercedes-Benz EQS dans sa version VUS.
Ben, j'en parlais un peu plus tôt et je suis toujours au volant de ce véhicule-là cette semaine. J'ai parcouru plus de 700 km à son volant jusqu'à maintenant. C'est extrêmement confortable. Je peux pas dire que je le trouve particulièrement joli. Je trouve que ça ressemble à pas grand-chose. Mais quand on prend place à bord, évidemment que c'est un salon roulant, il y a énormément de technologies. Le truc que je retiens, c'est la réalité augmentée. C'est-à-dire que si vous utilisez le système de navigation de Mercedes-Benz, ce qui m'arrive pas vraiment parce que je préfère toujours utiliser Google ou Plan, ça c'est moi personnellement, mais d'abord, le système de navigation de Mercedes-Benz fonctionne très bien, très facile d'entrer une destination, aussi facile que si vous le faites avec votre appareil mobile. Mais on va vous envoyer de l'information en temps réel avec une réalité augmentée au pare-brise et sur l'écran central. C'est-à-dire que vous allez avoir une image projetée dans l'écran central qui vous dit exactement avec des flèches dont la dimension va augmenter au fur et à mesure que vous arrivez.
Parce que lorsqu'on circule en ville et qu'on nous dit, par exemple, dans 350 mètres, tournez à droite, bon, est-ce que c'est celle-ci ou la suivante?
Ça peut pas être plus clair. Et dans l'écran, dans le pare-brise qui se trouve évidemment devant nous, ben on voit les flèches augmenter et la direction, et le véhicule va même tanguer un peu de lui-même. Il suffit de mettre une petite résistance, puis il le fera pas. Mais le véhicule va se diriger d'emblée vers l'endroit. Donc, il y a une technologie qui est quand même assez intéressante là-dedans. Je t'avoue qu'en une semaine, je n'ai pas encore réussi à trouver le bouton du volant chauffant. J'ai aucune idée où. J'ai pas fait de recherche.
Même à travers le menu.
J'ai pas fait de recherche là, Google là, ou YouTube, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Puis, mon test, c'est toujours ça. Quand l'utilisateur du véhicule n'est même pas capable de trouver les fonctions, c'est peut-être que c'est un peu compliqué.
Ouais.
Et c'est effectivement très compliqué.
Et tu sais, un simple bouton là, à gauche du volant, là, ça n'a jamais tué personne.
Ça fonctionne très, très bien. Ouais, c'est voilà. Ça. Bon, j'ai trouvé les sièges chauffants, heureusement, mais pour le volant chauffant, je ne l'ai pas encore trouvé.
Est-ce qu'on a les roues arrière directionnelles comme c'est le cas avec la berline?
Alors, écoute ceci. Tu as les roues arrière directionnelles. D'emblée, si tu achètes le véhicule sans option, il va avoir un angle de 4,5 degrés. Tu peux prendre un groupe d'options qui, à ce moment-là, va te donner un angle inversé de roue arrière jusqu'à 10 degrés. Donc, pour faire des virages en
U... C'est beaucoup 10 degrés.
C'est beaucoup 10 degrés. Pour faire des virages en U, c'est extraordinaire. J'ai l'impression de conduire une Subaru Justy. Ça tourne sur un 10 sous. Mais tu peux aussi choisir cette option-là de façon individuelle en la téléchargeant via l'écran du véhicule à raison de $24.95 par mois.
Donc, tu as le choix d'écouter tes séries sur Netflix ou de pouvoir virer sur un Dyson pour la même somme.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs options qu'on peut ajouter par nuage de par la seule sélection d'un clic qu'on va faire dans l'écran. Sous forme d'abonnement mensuel.
Bon, évidemment, on en a déjà discuté de ça, toi et moi. Bon, quelqu'un qui loue le véhicule, par exemple, pour une durée de 2 ou 3 ans, pourquoi aurait-il à absorber toutes ces options-là, tous ces gadgets-là, alors que lui va payer pour l'utilisation qu'il en fera du véhicule? Bon, c'est un débat intéressant.
Mais en même temps,
oui.
Elle est là, ça coûte pas plus cher.
C'est certain.
Mettez-la.
Oui.
Puis évidemment que je me dis, le gars qui a un tel montant pour se procurer un véhicule, d'aller mettre un 1500$ de plus pour l'option, c'est pas comme si...
Parce que c'est coûteux comme véhicule, là, déjà.
Le prix a carrément aucun bon sens. Tu sais, moi, je suis assis dans ce véhicule-là, je le conduis. C'est une version 580, il y a aussi une version 450, un peu moins puissante, puis rendu là, honnêtement... C'est pas comme si c'était un véhicule sport. Il n'y a pas de version AMG pour l'heure. Est-ce que ça viendra éventuellement? Peut-être. On sait qu'il y en aura une dans Berlin, là. Mais qu'il y en a déjà une dans Berlin, en fait. Mais pour l'heure, il n'y en a pas encore. Mais écoute, le véhicule que je conduis cette semaine coûte 178 000 $.
C'est à la portée de tous, ça.
Pour vrai, là, tu regardes passer ce véhicule-là, tu sais ce que ça me rappelle un peu? Ça me rappelle la classe R de Mercedes.
Donc, très long, un petit peu trapu.
C'est un pseudo VUS, mais avec une ligne de un peu de familial surélevée. Ça n'a pas de look, c'est pas particulièrement fascinant. Faut que je te dise...
Tu ne pourrais pas imaginer que ça vaut 80 000 $ de plus qu'un GLE, là.
Jamais. En fait, tu sais, moi, je conduis ça, puis je me dis, OK, j'ai un véhicule à 100, 110 000, là. 115, peut-être. Ouais, il y a des options.
La Supreme de l'électrique, tu la payes très cher.
Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens, le prix de ce véhicule-là. Puis le pire, c'est que j'en ai croisé plusieurs cette semaine.
Ben, moi, j'en ai croisé un, d'ailleurs, à Mecaglisse, avec les clients qui se
procurent. Ah bon, c'est ça. Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui ont adhéré à ce modèle-là. Je comprends parce que c'est ultra confortable. En même temps, côté conduite, c'est très ordinaire. La direction, ça manque de précision, c'est mou, il y a du roulis en virage, c'est aucunement dynamique, là.
Puis l'autonomie, c'est raisonnable?
Bon, l'autonomie, ben c'est ça. Annoncé à 460 km, à du moins 25, comme c'est le cas aujourd'hui, tu vas faire 250, 275, alors c'est coupé de pratiquement 50 %. Rechargé au garage, là, tu vois, quand je suis parti de la maison, on m'affichait rapidement, considérant la température, là, on m'affichait 320 km d'autonomie rechargé au garage aujourd'hui. Et je suis sorti de la maison, j'ai fait une dizaine de kilomètres, puis l'autonomie avait baissé à 260 parce qu'évidemment, on s'ajuste en fonction de la température.
C'est difficile, là, les grands froids.
Bien, c'est difficile pour un véhicule électrique, point, parce que là, la thermopompe ne fonctionne plus. Il n'y a plus, je veux dire, on compose. Mais en même temps, il ne fait pas moins 25, moins 30 tous les jours, là. C'est quand même un véhicule qui a une autonomie plus que raisonnable, 460 km. Ça te donne un confort intéressant. Il faut aussi que je te dise que malgré le poids de ce véhicule-là, malgré sa taille, aucun craquement, aucun bruit de caisse, ce qui n'est pas toujours le cas d'un produit Mercedes. Hein. On voit des lacunes de qualité d'assemblage. Il faut aussi souligner que c'est un véhicule assemblé en Alabama.
Oui, j'avais visité l'usine, d'ailleurs.
Oui, alors, tu sais, c'est un véhicule authentiquement américain qui cible une clientèle américaine. Ça va bien, mais le prix, pour moi, là, honnêtement, j'ai de la misère à comprendre qu'on vend ça un montant aussi élevé que ça. Ajoute la taxe de luxe. On est bien au-delà des 200 000 une fois que tu as ajouté tous les autres frais, là. C'est épouvantablement élevé comme facture.
Ça commence à être très salé,
C'est ça. Puis c'est pas comme si l'étoile Mercedes brillait de tous ses feux là, sur ce véhicule-là. Écoute, ça passe un peu inaperçu. Fait que je suis resté un peu sur mon appétit, même si c'est un véhicule qui va bien.